Alors au début de ce festival, on avait fait un préambule qui était un peu en marge de la programmation proprement dite. Et on termine ces journées d'études avant cet après-midi de repartir sur un débat plus général par une intervention qui est elle-même un peu un contrepoint par rapport à ce que nous avons discuté depuis deux jours. Alors ce contrepoint porte notamment sur la question des techniques d'observation et de mesure du social. Un positionnement un peu rapide sur ces questions pourrait comporter un certain nombre de biais. Nous avons voulu être attentifs à bien saisir toutes les données du problème. Quand les techniques de mesure de la population, d'observation de la population se créent à la fin du 18e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, eh bien on peut voir que ces techniques vont à la fois être constitutives des sciences sociales en cours de formation, d'institutionnalisation, et en même temps, ces techniques vont être utilisées par les gouvernements, les formes politiques en cours de redéfinition au cours du 19e siècle, de telle sorte qu'une analyse un peu rapide pourrait nous conduire à penser que, finalement, ces techniques ayant les mêmes origines, elles poursuivent les mêmes finalités. C'est oublier que les techniques ont des usages sociaux. C'est d'ailleurs peut-être une des limites. On a beaucoup utilisé Foucault, et moi-même je l'ai utilisé, à trop vouloir chercher la transversalité des formes et des techniques, on finit par oublier les conditions pratiques et institutionnelles qui font que les pratiques, les techniques engagent un certain nombre d'enjeux sociaux et poursuivent de fait un certain nombre de finalités. Et sur ces questions de la science sociale en cours de constitution, l'élément fondamental, bien évidemment, c'est la constitution d'une forme d'autonomie des chercheurs, d'une autonomie professionnelle qui est d'indépendance. On aurait dit au printemps dernier, quand les enseignants-chercheurs étaient mobilisés, le maintien de cette indépendance reste un enjeu fondamental aujourd'hui pour donner des outils de lecture du social qui donnent des compétences critiques, qui renforcent les compétences critiques du citoyen et qui ne soient pas des instruments de gouvernement des populations. Voilà, donc c'est sur ce point-là que nous souhaitions conclure, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas à chercher un terme moyen entre ce que serait l'usage de la statistique dans les enquêtes et ce que seraient les usages du fichage des populations, etc. Il y a à voir, au contraire, que la montée des techniques de fichage des populations se fait à l'encontre des techniques d'observation des populations utilisées dans le sens du développement de ces compétences critiques des populations. Voilà. Donc c'est cette question-là, c'est sur ce paradoxe-là que nous voulions conclure notre réflexion des journées d'études. Et pour cela, nous accueillons Gaël de Peretti, qui est un éminent statisticien, dont les travaux ont porté notamment sur le mal-logement, qui a beaucoup contribué au fonctionnement des grandes enquêtes publiques et qui est aujourd'hui directeur de la collection INSEE Référence, c'est ça ? Voilà. Et qui, par ailleurs, est un militant actif du collectif Sauvons la statistique publique et donc est assez bien placé pour aborder ces questions-là avec nous.
Alors, je pense que parce que la présentation qu'a fait Bertrand est un petit peu, on va dire, optimiste et large. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder tous ces sujets. Et ce que je voulais dire peut-être en introduction, c'est que plus qu'un contrepoint, je me disais que c'était peut-être aussi une forme de lien entre ces journées d'études. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire entre les journées d'études, tout ce qu'on a entendu, qui était vraiment très, très intéressant, en tout cas pour un statisticien et un béotien en sociologie comme moi. Et puis, l'après-midi, avec toutes les questions de résistance, en particulier l'appel des appels, parce qu'il faut savoir qu'à un moment, le collectif dont je fais partie a essayé d'intégrer l'appel des appels, et ça a été difficile pour un certain nombre de choses, et en particulier lié à toute cette histoire de la quantification, enfin, toute l'importance de la quantification des indicateurs et toute cette pression qu'il y a maintenant sur les statisticiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de cas qui ont été évoqués, donc les indicateurs de performance, toutes ces choses-là, les indicateurs de qualité, tous ces indicateurs de qualité et de quantité qui interviennent, on va dire, dans le travail, dans les politiques publiques, font qu'il y a une pression nouvelle qui est sur le statisticien et qui, on va dire, remet en cause un certain consensus qui existait pendant longtemps, dans le sens où il était un petit peu dans sa tour d'ivoire, il faisait un petit peu ce qu'il voulait, il faisait des enquêtes, etc., on ne venait pas trop l'embêter. Et puis maintenant, y a des frottements qui s'accentuent dans la période, quoi. Alors, ce que je vous propose... Alors, normalement, en fait, on devait être deux intervenants, hein, il faut savoir. Il y avait une première partie qui devait être sur la base élève. Aujourd'hui, c'est la journée nationale contre la base élève. Je vais en parler un petit peu, en fait, de la base élève, justement, pour évoquer un petit peu comment le contexte politique peut influencer sur la production de savoir et d'information. Et donc, on parlera de la base élève. Et puis, il devait y avoir un deuxième temps qui était plus revendicatif. C'était où je vais dire, voilà, pourquoi il faut sauver la statistique publique. On en parlera aussi, rassurez-vous, puisque à la limite, c'est ce que je connais le mieux, quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est un truc vraiment en trois temps. Un premier temps, c'est de présenter un petit peu ce que c'est que la statistique publique, parce que je ne suis pas sûr que les gens qui sont ici présents sachent exactement ce que ça recoupe comme réalité, en insistant un petit peu sur les particularités du système français et plutôt sur les côtés positifs, quoi. Voilà. Après, on arrivera au frottement. Et donc, l'idée, c'est de voir à travers quelques controverses comment il y a des interactions, de fait, comme pour toutes les institutions, entre ce qui se passe dans la société et puis ce qui est produit par l'institution. Voilà. Et puis, dans un troisième temps, donc là, ce deuxième temps-là où je m'intéresserai, au contexte qui m'intéressera, c'est en essayant de reprendre un peu toute cette histoire de surveiller et comment le fait du fichage, etc., comment ça a des incidences à la fois sur les enquêtes, mais aussi sur les fichiers administratifs qui sont les deux sources principales de la statistique publique. Et puis après, j'irai dans un temps un peu plus large, le contexte, j'élargirai le contexte, on va dire, économique, et voir comment aujourd'hui la statistique publique, elle est confrontée à un certain nombre de problèmes qui remettent en cause sa capacité à produire à long terme des informations de qualité et fiables, et pour tout le monde surtout. Donc la statistique publique, en gros, c'est, on va dire, deux types d'institutions. C'est l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, et puis ce qu'on appelle les services statistiques ministériels, les SSM, dans le jargon du statisticien. Voilà, donc ce sont ces deux grosses entités qui constituent le système statistique public, avec l'INSEE qui, en fait, est une direction du ministère des Finances, enfin, où tous les noms qui ont changé tout le temps, etc. Et puis, ces SSM qui sont intégrés dans des ministères. Pour quelle raison? L'idée, c'était d'être au plus près des producteurs des données administratives pour à la fois pouvoir influencer sur cette production de données administratives et puis aussi pour pouvoir plus facilement les étudier puisqu'on connaît mieux les gens qui les produisent, etc. Donc ça, c'est les deux piliers, on va dire, de la statistique publique. Tout de suite, les particularités, c'est quoi? C'est que l'INSEE. Donc dans l'INSEE, il y a INS puis EE. En fait, dans la plupart des pays... il y a des INS, des Instituts Nationaux de Statistique, et il n'y a jamais d'études économiques. Donc ça, c'est une des particularités assez fortes et qui est bien reconnue par les pairs, on va dire, statisticiens publics ou officiels, selon qu'on soit anglo-saxon ou français, on va dire, latin. L'idée, c'est qu'il y a une interaction entre les producteurs de données et puis ceux qui vont les utiliser, quoi, les premiers utilisateurs. Puisqu'en fait, l'INSEE, l'avantage qu'il a sur les autres instituts, c'est qu'il est souvent... Il va un peu plus loin que la production des données, il fait des petites études, donc par exemple, parmi les choses qu'a évoqué la INSEE Référence, par exemple, c'est une collection qui, justement, avec des petites études pas très longues, mais qui permettent d'informer un large public, qui ont plutôt vocation à être des diffusions grand public, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier point qui fait une différence avec les autres instituts. L'autre particularité, c'est les CSSM, là, ces services statistiques ministériels. D'habitude, dans la plupart des INS, en fait... c'est directement intégré dans l'INS. Alors que là, ce qu'on a essayé de construire en France, c'était l'idée de se dire on va se mettre au plus près des producteurs de données, justement, pour, comme je vous l'ai dit, pour gagner en qualité. Et puis après, on a rejoué sur cette interaction entre production, statistique brute, quoi, entre ce qu'on appellerait on peut utiliser les termes anglais, quoi, le data, donc, et puis le given, qui est la chose un petit peu travaillée, qui va être utilisée par le public, les journalistes, etc., toute la société civile, les syndicats, les organisations, les organismes, les associations. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième point important, l'idée de cette double casquette, quoi. Voilà. Et ça, ça a été pas mal mis en place. En gros, ce qui a poussé à cette organisation, en fait, il y a un des grands pères tutélaires de la statistique publique, c'est Edmond Malinvaux, qui est un très grand économiste, et qui a vraiment poussé dans cette idée qu'il fallait que la statistique soit au plus près des producteurs, etc., toujours pour essayer d'enrichir et la qualité de ce qui est produit. L'autre particularité de la statistique publique par rapport aux autres, par rapport toujours à l'étranger, c'est le fait qu'il y a des deux écoles qui forment, on va dire, les cadres de cette institution, quoi. Donc deux écoles, l'ENSAI, enfin peu importe le nom, qui, donc de fait, ça pour le coup, c'est assez français, c'est l'idée d'avoir des corps d'État, des ingénieurs qui vont aider à la production et d'améliorer l'efficience de l'administration, qui a toujours été une sorte de... Enfin, en tout cas, pour la France, c'est un truc, les corps d'État, il y en a partout, quoi. Et dans la statistique publique, il y en a, donc une école qui a été créée en 1946, et qui, depuis 1946, elle est passée d'une vocation plutôt à former des fonctionnaires, à former beaucoup de gens autres que des fonctionnaires, mais il reste quand même cette idée d'avoir un langage commun au sein de la statistique publique. Voilà. Et non seulement, comment elle se fait, l'idée aussi, c'est qu'il y a une grosse coordination. Alors, la coordination, elle a lieu dans deux endroits, soit directement via l'INSEE, donc là où l'idée, c'est qu'on envoie justement ces cadres qui sont formés, on les envoie dans les divers endroits où il y a des productions de données statistiques. Donc, ça permet de garder partout une sorte de contrôle sur ce qui est fait et puis un langage commun. Donc, ça, c'est plutôt une première phase de coordination, donc via la mobilité, on va dire, des agents. Et puis, l'autre forme de coordination, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui le CNIS, le Conseil national de l'information statistique, qui est un lieu assez unique, en fait, encore aussi, pareil, dans le monde, même si, en ce moment, au niveau européen, on essaye de mettre en place un truc équivalent. Le CNIS, c'est quoi? C'est un conseil où se retrouvent, en fait... les organisations syndicales, les associations, les chercheurs, les producteurs de données, pour arriver à la fois à se coordonner, c'est-à-dire pas faire plusieurs fois la même enquête, mais aussi pour faire émerger des solutions et quand il y a des frictions, en fait, arriver à savoir ce qu'il faut améliorer, dans quel sens. Deux exemples très, très, très concrets sur ce que je connais. Dans les années 90, se posait la question de... en gros, le SDF, quoi. Voilà, les sans-abri, le SDF, c'était devenu une question hyper prégnante. Au sein de ce conseil, il y a eu un groupe de travail qui a vraiment pris son temps avec les associations, comme je vous dis, et tous les acteurs publics et privés de cette question, pour arriver à aboutir à une enquête unique, en fait, dans le monde. C'est l'enquête sans domicile 2001, qui, en fait, dans un premier temps, s'est intéressé aux conditions de vie de ces gens. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement les compter, mais c'était surtout s'intéresser à leurs conditions de vie. Voilà, parce que sachant que le sans-domicile, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il y a l'image un petit peu tutélaire, c'est le SDF dans la rue, machin, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Voilà. Et donc, le fait de passer par ce genre d'organisme un petit peu où se rencontrent tous les points de vue a permis d'arriver à une enquête quand même assez exceptionnelle, qui a fourni un certain nombre de résultats très intéressants, en particulier, par exemple, le fait que... C'est 300 domiciles sur 10 travaillent, en fait. Voilà. Donc ça veut dire, d'une certaine façon, que le travail n'est plus suffisant aujourd'hui pour avoir un logement. Donc voilà, des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est le CNIS. Donc avec tout ça, c'est plutôt des particularités, qu'on va dire positives. Voilà. Mais, bon, évidemment, il y a toujours eu des tensions, on va dire, entre, à la fois... le politique et la politique, on va dire. Donc le politique, ce serait les gouvernants, et puis la politique, ce serait la société civile au sens large, avec la statistique publique, puisqu'il y a toujours des frictions, on n'est pas toujours d'accord sur ce qui se passe. Alors ce qu'il y a, c'est que, on va dire, pendant longtemps, ces soucis se réglaient justement au sein du CNIS. Donc il y avait l'idée que c'était cet organisme qui était créé exactement pour ça, il avait vocation à faire des groupes de travail pour arriver à un consensus sur des questions précises, et puis après, on rentrait en application. Bon, depuis quelques temps, en fait, il se trouve qu'il y a eu plusieurs attaques un petit peu contre cette institution. Alors, ce n'est pas vraiment des attaques, mais c'est plutôt que des choses qui se décidaient avant dans cette instance de coordination, elles sont passées ailleurs. Donc, deux exemples très récents, les statistiques ethniques, et puis la mesure du PIB. Donc le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est des choses dont on vous parle à peu près tous les ans, c'est la croissance, quoi, le taux de croissance. Voilà, le taux de croissance, est-ce qu'on est riche ou est-ce qu'on n'est pas riche. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui existent depuis longtemps. D'ailleurs, pour les statistiques ethniques, il avait été débattu au sein du CNIS. On s'était dit, on ne va pas aller dans l'idée de faire un référentiel ethno-racial, des choses comme ça. Mais là, en fait, il a été discuté finalement ailleurs. On a créé une commission, la COMED, qui a rendu son rapport il n'y a pas longtemps, où l'idée c'était, voilà, avec la décision se fait plus au même endroit. Pareil pour le PIB, alors qu'il y a des discussions depuis très longtemps sur des indicateurs alternatifs de la richesse, notre président a créé une commission, la commission Stiglitz-Sen, FITUSI, en fait ils étaient trois là, c'était un triplet, et qui a eu aussi, ça s'est fait en dehors pareil de cette instance, pour discuter, pour proposer des solutions à cette mesure, en fait, un peu, on va dire, un peu, cet indicateur synthétique qui résume pas très bien les choses aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, on voit déjà qu'il commence à avoir des petites frictions, et puis, bon, bah voilà, sans revenir sur les autres, les derniers sujets qui ont été importants, il y a eu l'indice des prix, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui ont été un petit peu remises en cause par rapport à ce qui est produit par la statistique publique. Et donc là, l'idée, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a non seulement la société civile qui intervient, et puis aussi le politique. Et là, le politique, comment il intervient aujourd'hui, parce que là, ce que j'aurais abordé, donc deux choses qui font écho à cette histoire de surveiller, réprimer, etc., c'est les enquêtes de victimation et puis le fichier de la base d'élèves. Donc, on est dans un... Depuis quelques années, voilà, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais une sorte de contexte assez sécuritaire, et qui a des influences sur la statistique. Donc l'idée, c'est bien sûr, c'est que la statistique, elle n'est pas en dehors du monde, quoi. Elle est dans le monde, et donc elle est touchée par ce qui s'y passe. Alors la première chose, c'est l'enquête victimation. Alors, il y a deux sources, on va dire, comme je l'ai dit, il y a deux sources de données pour la statistique publique, les fichiers administratifs, voilà, et les enquêtes. Pour ce qui est la délinquance, il y a donc deux approches possibles. C'est soit via les statistiques de la délinquance produites par l'administration policière, donc en particulier l'État 4001, donc là qui permet de produire un ensemble de tous les délits. On peut les classer en plein de... Voilà, parce que les statisticiens, ils classent aussi, il est comme Bourdieu. Tout un tas de choses. Et puis, les enquêtes de victimation. Alors, seulement, on va dire, dans les années 90... Ces histoires de victimation, elles étaient plutôt imbriquées dans ce qu'on appelait les conditions de vie. C'est-à-dire qu'il y avait des enquêtes qu'on appelait les enquêtes permanentes en conditions de vie, qui avaient vocation à balayer l'ensemble des champs possibles relatifs aux conditions de vie, et dont les problèmes de vol, d'agression, etc. Mais c'était bien plutôt dans une approche conditions de vie. Dans les années 2000, on a eu un ministre de l'Intérieur très très actif. Et lui, il s'est dit, il faut faire ça autrement. Alors, il a d'abord commencé par créer un observatoire national de la délinquance, l'OND, qui normalement devait être indépendant, mais qu'en fait, il a rattaché au ministère de l'Intérieur, donc un organisme indépendant, mais en fait, pas du tout, et donc, qui avait beaucoup d'argent, et qui a donc pu, d'une certaine façon, imposer... alors, c'est pas imposé, mais disons qu'il avait les moyens de demander... à l'INSEE, de faire une enquête de victimation, mais en plus d'en contrôler un petit peu les variables qui allaient être produites. Et donc l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on est glissé plutôt d'une observation des conditions de vie à plutôt une observation de l'administration et la production, on va dire, des infractions. Et pour l'idée, c'était quoi ? C'était, avec cette enquête, je vais pouvoir, d'une certaine façon, contrôler si ce que me donnent les données de l'administration policière sont justes. Donc on est carrément dans une autre façon d'observer les choses. Mais voilà. Et donc cette enquête, elle a pris une place importante. C'est une enquête qui a lieu maintenant tous les ans. Donc on peut vraiment se poser la question si la statistique publique a vocation à faire tous les ans une enquête sur toutes les infractions, et avec des détails incroyables. C'est-à-dire que, par exemple, le truc qui m'avait le plus halluciné, c'était on va demander jusqu'à... Genre, on descend jusqu'au cinquième vol de vélo, quoi, où on décrit tout, quoi. C'est-à-dire que la personne doit décrire... Alors qu'on pourrait plus dire, est-ce qu'on vous a volé votre vélo ? Puis dites un, deux, enfin plusieurs, je sais pas. Mais là, c'est premier vélo, on décrit les circonstances, etc. Donc, un truc de détail qui est vraiment pour vraiment pouvoir comparer avec ce qui est produit par ailleurs, avec l'idée d'un contrôle. Un contrôle un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu une sorte de... ça, c'est le problème des données administratives, c'est qu'en fait, c'est plus souvent des données, des moyens consacrés par l'administration qu'effectivement une observation de l'état de ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. L'autre exemple d'impact, on va dire, de cette politique sécuritaire de fichage, etc., c'est la base élève. La base élève, en fait, ça fait... en gros, c'est une base qui avait... Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'elle permettait un certain nombre de travaux sur les inégalités sociales, on va dire, dans l'éducation, parce qu'il y avait, en particulier, il y avait la catégorie socio-professionnelle des parents, etc. Voilà. Donc c'était, et puis elle avait l'avantage d'être exhaustive, donc on pouvait faire des choses assez fines, etc. Seulement, elle a été relancée, on va dire, avec, il y a eu un moment l'idée d'introduire la nationalité des parents, je crois. Et évidemment, de fait, là, c'est rentré dans un conflit total avec des organismes tels que la Ligue des droits de l'homme, etc., qui disaient non, là, ça suffit. On ne peut pas mettre ça, parce que là, c'est du fichage, surtout qu'il y avait toutes les histoires avec RESF, des parents envoyés alors qu'il y avait leurs enfants à l'école, etc. Quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un premier temps, on est revenu sur cette histoire de nationalité. Et puis même après, on allait plus loin, puisque, c'est en 2008, je sais pas quoi, Xavier Darcos, il a dit, non seulement on va enlever la nationalité des parents, mais on va enlever aussi le fait de savoir s'ils parlent une autre langue chez eux. Et enfin, on va surtout enlever la catégorie socio-professionnelle, puisque ça sert vraiment à rien. Ces fichiers-là, c'est des fichiers plutôt de gestion. Voilà. Et donc, au départ, cette base élève qui avait effectivement une vocation de gestion, mais aussi une vocation de pouvoir servir aux sociologues de l'éducation, s'est retrouvée complètement amputée de cette partie-là et se retrouve finalement plus qu'un fichier de gestion. Voilà. Et donc là, il y a eu un conflit entre... par exemple, des sociologues qui disaient « Ah là là, c'est la catastrophe, on ne va plus pouvoir faire des recherches fines sur les inégalités sociales dans l'éducation. » Et puis, je dis la Ligue des droits de l'homme, mais il y avait d'autres associations qui étaient contre, qui disaient « Ah non, il faut arrêter parce qu'aujourd'hui, on sait trop qu'un fichier, il sera détourné de son utilisation a priori fixée. » quoi. Voilà. Donc, deux exemples qui montrent que le contexte a des influences sur ce qui peut être produit et des incidences assez fortes. Hein, parce que, bon, de fait, quand même, le fait qu'il n'y ait plus la PCS, ça va effectivement obérer un certain nombre de recherches qui ont été menées depuis longtemps sur ces questions-là. Quoi. Il faudra repasser par des enquêtes. Alors, le problème des enquêtes, c'est souvent qu'elles sont moins précises. Donc, on pourra faire des enquêtes, il y aura une vision nationale, mais maintenant, on est rentré quand même pas mal dans l'idée de faire des choses très territorialisées et comment arriver à résoudre cette contradiction. Donc ça, c'est le, on va dire, le côté sécuritaire. Mais en fait, le contexte, il est beaucoup plus large, en particulier pour tout ce qui est lié à la fonction d'État. C'est aujourd'hui, on est dans le contexte de ce qu'on appellerait à la fois le contexte néolibéral, mais aussi ce qui est traduit en France, en particulier par la révision générale des politiques publiques. Voilà. Et donc, si ça me permet d'aborder mon troisième point, c'est les attaques contre la statistique publique qui ont été successives depuis un certain nombre de temps. Et là, ça rebondit un peu sur cette question d'autonomie et d'indépendance qui a été évoquée par Bertrand au début de sa présentation. Donc, de fait, l'indépendance de la statistique publique, ça a toujours été quelque chose qui a été en discussion, mais en particulier parce que justement, comme je vous l'ai dit au départ, l'INSEE est dans le ministère des Finances. Quoi. Mais il se trouve que, même s'il n'y avait pas en fait indépendance de droit, il y avait indépendance de fait, et c'était quelque chose qui était très important, c'est-à-dire que les différents directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de l'INSEE, déjà n'ont jamais été changés, en tout cas en lien avec des changements de majorité politique. Ils sont restés souvent assez longtemps. Les cinq premiers, je crois, sont restés sur 40 ans, donc ça faisait 8 ans, c'était assez long quand même. Donc sur des temps longs. Et puis surtout, c'était très important pour eux, pour tous ceux qui se sont succédés, de montrer qu'il y avait effectivement une indépendance, parce que sinon c'était une remise en cause totale de leur travail. Quoi. Donc la déontologie, on va dire, des statisticiens était très très forte. Ce qui d'ailleurs pose de plus en plus de problèmes, parce que, on va dire, entre le temps politique, qui aujourd'hui est plus que court-termiste, c'est quasiment la semaine qu'il faut faire des choses, et puis le temps statistique, qui est beaucoup plus long, y a des frottements, et donc c'est sûr que c'est compliqué. Alors en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que s'il y a toujours eu des petites tensions, là, elles se sont vraiment multipliées, et puis surtout au plus haut niveau, on va dire, des gouvernants. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de critiques qui ont commencé à partir, on va dire, il y a toujours eu des critiques sur ce que produisait la statistique publique, mais là, tout d'un coup, c'est eu un faisceau de critiques, et puis surtout par le Premier ministre, le gouvernement, le ministre des Finances, etc. Donc, en gros, pour vous faire un petit balayage là depuis 2005. D'abord, on a eu, quand il y a eu la mise en place du CNE, le VACTAN où il a existé, alors c'était, oui, vous ne les prenez pas en compte dans les statistiques, c'est pour ça que c'est n'importe quoi le, le taux de chômage. Après, il y avait le ministre de la fonction publique, qui avait, donc c'était Santini à l'époque, en 2007, là, qui dit, c'est quoi ces chiffres que vous publiez, les fonctionnaires ont pas de problème de salaire, au contraire, ça augmente. Il y a eu toutes les critiques du président de la République, mais aussi de votre présidente de région sur la mesure de l'inflation, en disant que c'est n'importe quoi. En fait, les prix ne cessent d'augmenter. Pourquoi vous nous dites que ça augmente pas? Et tout ça, ça a eu des conséquences. En particulier, par exemple, en 2007, juste avant les élections présidentielles, l'INSEE s'autocensure et décide de ne plus publier les chiffres du chômage. Pourquoi? Parce que il y avait un trop grand décalage entre ce qui était produit par l'enquête emploi et puis ce qui était produit par les statistiques de l'ANPE, enfin aujourd'hui Pôle emploi. Donc l'ANPE, en gros, ce qu'ils mesurent, c'est le nombre de demandes, les DEFM, quoi, les demandes d'emploi, et puis de l'autre côté, c'est le chômage, qui sont deux choses tout à fait différentes. Et en général, à la fin de chaque année, on les raccorde. C'était un peu ce qui se faisait avant, quoi. Mais là, c'était difficile de les raccorder parce qu'il y avait 1% d'écart. Donc l'INSEE a dit, oulala, il y a sûrement des problèmes méthodologiques, on arrête de publier, et puis, parce que là c'est trop tendu, et puis on va résoudre les problèmes et après on republiera. Voilà. Bon, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'un an après, donc là, dans mon souvenir, c'était, il y avait genre le taux de, on va dire, pour simplifier, à l'ANPE c'était 9%, et puis l'INSEE c'était 10%. 1% c'est énorme, hein, en nombre de chômeurs. En fait, sur ce 1% de décalage, il y avait effectivement 0,3% de problèmes techniques, mais le reste c'était différence de définition, quoi, parce qu'effectivement, au niveau de la NPE, il y avait eu plein de changements pour essayer d'éliminer le plus de possible le nombre de demandeurs d'emploi. C'est une pratique assez courante pour diminuer soi-disant le nombre de chômeurs, mais le nombre de demandeurs d'emploi, on fait plus de contrôles, etc. Encore des contrôles, quoi. Voilà. Autre type de menace, c'était toujours Xavier Darcos, qui s'est bien illustré là. Lui, il refusait de publier des études, donc il était au ministère de l'Éducation nationale, donc l'ADEP, qui est le SSM de l'Éducation nationale, ne pouvait pas publier un certain nombre d'études, et en particulier, on ne savait pas le nombre d'élèves qu'il y avait au début de l'année, et donc ce qui permettait de dire, les élèves sont en baisse, on supprime des profs, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Donc ça permet en plus de justifier un message. Il ne pouvait pas quand même tricher sur les chiffres, mais il ne les publiait pas, pour pouvoir en inventer d'autres. Voilà. Bon. Alors tout ça, ça pose des questions, parce que toutes ces critiques, en fait, aujourd'hui, la plupart des on va dire, des données statistiques classiques qui sont utilisées, en fait, elles reposent sur des méthodes harmonisées. C'est-à-dire que, en gros, au niveau européen, l'indice de prix, c'est tout le monde fait pareil, pour le PIB, tout le monde fait pareil, etc. Donc, on arrive où les gens critiquent un petit peu ce qui est produit, alors qu'en fait, sur la méthode, il n'y a pas de discussion possible, puisque c'est des méthodes qui ont été choisies au niveau européen. Souvent, la France a influencé, puisqu'ils maîtrisent pas mal. Donc, voilà, donc on se retrouve avec des choses comme ça. Bon, autre fait qui montre quand même que la statistique gêne quand même pas mal ce gouvernement, en 2007, ils virent le directeur général. C'était la première fois. En fait, il y avait une autre fois avant, où il y avait eu Jean Ripert qui s'était fait effectivement éliminé, mais ils avaient essayé d'expliquer pourquoi, et puis il avait été quand même mis commissaire général du plan. Jean Ripert, 74, donc c'était l'ami Giscard, et lui, c'était pas tellement pour... C'était plus des questions de personnes que des questions de contrôle de l'institution. Tandis que là, bon, bah là clairement, c'est pour mettre quelqu'un à la place, donc Jean-Philippe Cotis, qui était chef économiste à l'OCDE, et puis qui est clairement... répertorié parmi les sites comme un des économistes de l'ombre de Sarkozy, quoi. Donc beaucoup plus dans sa mouvance. Voilà. Autre attaque, en 2008, le rapport Attali qui dit en gros l'INSEE, faut plus que ce soit fonction publique, faut que ce soit une agence. Donc ça, c'est un autre processus aussi pour attaquer un petit peu la fonction d'État, c'est changer le statut pour pouvoir plus facilement influencer sur ceux qui vont au quotidien produire des statistiques. Voilà. Et enfin, le dernier gros coup de bâton, c'est la décision de délocaliser à Metz une partie de la statistique publique. Bon, alors, sachant que, voilà, donc l'idée c'était de délocaliser. Au début, c'était 1500, bon, finalement, ça devrait être plus que 600. Je finis bientôt, ouais, ça tombe bien. 1500 plutôt que... Enfin, 1500, donc c'était énorme. Et puis, avec surtout le. Alors que la statistique publique, ça j'en ai pas parlé au début, mais elle est très déconcentrée. C'est-à-dire qu'il y a des directions régionales dans chaque région. Par exemple, à Poitiers, il y a une direction régionale de l'INSEE, voilà, qui permet justement d'avoir un contact. Et donc là, on se retrouve à un truc assez particulier, c'est qu'on a une administration qui est plutôt très déconcentrée et qu'on va encore essayer de disperser. Et donc, ça va.
l'idée, c'est que ça va complètement désorganiser le système. Alors, désorganiser d'autant plus que, dans une certaine mesure, la statistique publique, aujourd'hui, elle est confrontée à une explosion de la demande. Explosion pourquoi ? Il y a trois niveaux. C'est le niveau local, donc là, ça c'est lié à tout ce qui est les politiques de décentralisation. Donc de fait, aujourd'hui, les acteurs locaux, ils ont besoin de données, donc il faut de plus en plus de données localisées très précisément, c'est important pour conduire aussi leurs petites politiques publiques à leur niveau. Le niveau national, alors là, c'est plutôt lié justement à tout, plutôt lié aux demandes de la société civile. Donc là, il y a eu les inégalités, il y a eu le chômage, il y a eu les prix, donc tout un tas de demandes en plus pour effectivement avoir plus d'indicateurs que seulement un indicateur synthétique qui serait censé expliquer tout, quoi. Donc par exemple, au lieu d'avoir que le taux de pauvreté, avoir des choses sur tout l'ensemble des inégalités, de la distribution des revenus, etc., qui sont plus intéressantes. Au lieu d'avoir que le taux de chômage, avoir une description de tous les indicateurs alternatifs pour avoir une idée plus du halo du chômage. Voilà, des exemples concrets. Et puis, surtout, le niveau européen. C'est-à-dire que là, il y a au niveau européen, il y a ce qu'on appelle Eurostat, qui est la commission statistique, on va dire, qui, elle, a besoin de faire des milliers de tableaux de bord pour tout contrôler, pour faire du benchmarking entre les différents États, pour identifier les best practices, voilà, enfin les bonnes pratiques, quoi. Et donc, tout ce truc-là fait que, par exemple, pour vous donner un exemple vraiment très précis, sur les indices de prix à la production, donc c'est un truc dont personne ne s'y intéresse ici, mais ça sert, il y en avait 800 qui étaient demandés en 2001, aujourd'hui on en est à 5000. Donc vous voyez, en 10 ans, multiplié par 7. Et ça se retrouve dans plein d'endroits, quoi. Donc ça, c'est la demande qui augmente. Pareil, je vous ai parlé de l'RGPP. Donc c'est quoi l'RGPP ? En gros, ça veut dire on diminue les effectifs en ne remplaçant pas un départ à la retraite sur deux. Voilà. Il se trouve qu'à l'INSEE, pas de chance, il y a eu beaucoup de recrutement dans les années 70. Et donc là, on arrive à un moment où il y a 400 départs par an. Voilà. Donc 400 départs par an, si on en remplace qu'un sur deux, ça veut dire qu'il y a 200 personnes en moins chaque année sur une population au début de 5500. Donc on voit qu'au bout de 5 ans, on a moins 1000 sur 5500. Donc ça fait très très mal pour continuer à produire la même chose, voire plus. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc, le troisième, c'est aujourd'hui, là, c'est une nouvelle attaque, c'est le budget. C'est-à-dire qu'au début, on nous a fait croire, on nous a dit, vous inquiétez pas, vous aurez moins d'effectifs, mais vous aurez du budget de fonctionnement. C'est-à-dire des moyens, alors soit d'externaliser, donc je parlais tout à l'histoire des fonctions support, donc c'est un peu ça l'idée, et puis ou de faire de la sous-traitance, des choses comme ça, peut-être faire des appels d'offres avec des chercheurs pour faire des choses. Seulement, en fait, le budget, il diminue. C'est-à-dire que non seulement on a moins d'effectifs, on a moins de budget, on se fait attaquer, et en plus, on doit produire plus. Et tout ça de meilleure qualité, puisqu'en même temps, il y a Eurostat qui dit, qui met tout en place un système de contrôle de qualité par les pairs, etc. Donc ça devient vraiment difficile. Donc ce qu'on voit, c'est que on est vraiment dans une situation assez étonnante, c'est que et par ailleurs, ce que je vais vous dire, c'est que, je conclue bientôt, il y a l'idée normalement que l'indépendance de la statistique, elle est réaffirmée, alors via, au niveau européen avec le code de bonne pratique, et puis via, au niveau français avec la création d'une autorité statistique. Alors ça, c'est carrément, et je finirai là-dessus parce que c'est quand même très très drôle, c'est-à-dire, pour une fois, il y avait eu une commission donc, entre un député UMP qui s'appelle Mariton, Hervé Mariton, et puis Pierre-Alain Muet, qui est un socialiste. Donc ils avaient construit un rapport ensemble sur, justement, au départ, lié à cette histoire de chômage et de prix. Et puis, oui, ils proposaient une réorganisation un petit peu de la statistique, en disant qu'effectivement, il fallait inscrire l'indépendance dans le droit. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est que, finalement, la meilleure institution qui pouvait gérer ça, c'était le CNIS. Parce que là, il y avait la confrontation de tout le monde, et c'était intéressant que ce soit un endroit où il y ait des organisations syndicales, des associations, qui puissent, les chercheurs, tout ça, tous ces gens-là en même temps, qui puissent décider de cette question d'indépendance. Et en fait, le gouvernement a tout fait pour créer une autorité. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait d'abord un premier vote où tout le monde a dit « Oui, c'est super ce que propose Mariton Muet, en plus, pour une fois, tout le monde est d'accord, tout le monde vote. » Le gouvernement arrive, Christine Lagarde dit « Non, c'est pas bon, on va créer une autorité. » Alors au début, c'était une haute autorité, puis finalement, ce sera une autorité. Et on est arrivé à créer cette autorité, et je crois que quasiment, alors je ne sais plus si il y a très peu de temps, même, je ne sais pas si c'est avant ou après, il y a eu toute cette histoire sur le CSA, où Sarkozy a dit, bon, franchement, de toute façon, une autorité, on sait que c'est n'importe quoi, c'est hypocrite, donc en gros, ce qu'ils remettent en cause, c'était l'idée des autorités, ils disaient que c'était des organismes, bon, c'est pseudo-indépendant, et donc voilà, ils ont créé quelque chose en disant ce sera mieux, et en fait, juste après, ils disaient ça sert à rien. Voilà. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc voilà, l'idée c'est qu'en plus, pour vraiment conclure sur cette question, c'est que cette question de l'indépendance de la statistique publique, elle est aussi dans une remise en cause plus généralisée de tout ce qui est lié à l'information. C'est-à-dire, à la fois, il y a eu ce conflit pour tout ce qui est la formation au niveau du lycée, là, avec les professeurs d'économie et sociologie, là, enfin je ne sais plus comment, SES,
sciences économiques
et sociales, pardon, voilà. Donc il y a eu ce conflit avec eux. C'est trop mise en gros, on va essayer de plus former des citoyens. Il y a toute la mainmise sur l'information pardon, via les médias, dont a très bien parlé hier Peter Watkins. Et puis, le troisième, c'est la statistique publique. Donc là, en fait, on se retrouve dans une sorte de moment où il y a une vraie remise en cause de l'information au sens large, économique et sociale, possible, des citoyens, et ce qui, à mon avis, est un vrai enjeu démocratique. Quoi. Voilà. Désolé. Merci. Pour avoir dépassé.